De Richebourg, la joue brûlée. Il avait 25 ans. André était son nom. Fils d'un cultivateur aisé, bien que n'ayant jamais foulé l'asphalte des villes, il y avait en lui quelque chose du citadin. Aisance dans les mouvements, souplesse du corps, manière distinguée. Ses mains, habituées à manier les instruments aratoires, étaient petites néanmoins. Il avait la taille élancée et bien proportionnée. Ses épaules, que des fardeaux trop pesants n'avaient jamais fatiguées, ne montraient point cette carrure souvent exagérée de la plupart de nos paysans laboureurs. Son teint rose et frais avait résisté au soleil qui bronze les visages et aux hâles qui les rident. Une forêt de cheveux châtain clair couronnait son front élevé, uni comme un marbre poli. Ses grands yeux bleus, rêveurs et pleins de pensées, étonnaient par leur éclat, attirés par leur douceur. Sa physionomie était grave, réfléchie, mais en même temps sympathique et bienveillante. S'il ne riait pas à propos de tout et même à propos de rien, sa bouche, peu habituée au pli du sourire, n'avait jamais connu celui du dédain. Pour tout le monde, André se montrait bon, affectueux, serviable, dévoué. Toujours disposé à venir en aide aux autres, il s'oubliait souvent lui-même. Se rendre utile et agréable au plus grand nombre était considéré par lui comme un devoir, dans l'accomplissement duquel il trouvait son plus grand plaisir. Quelque incomplet que soit le portrait que nous venons d'esquisser, nos lecteurs comprendront sans peine pourquoi de gracieux sourires et de chaudes poignées de main accueillaient André partout où il se présentait, pourquoi il était estimé et aimé de tous, pourquoi bien des mères l'eussent voulu pour gendre, pourquoi enfin la gentille Huguette se redressait fièrement à son bras lorsque le dimanche après les vêpres il la conduisait à la danse. Huguette était la fiancée d'André. Tous les accords étaient faits. Le fermier Jubelin, le père d'André, devait céder sa ferme à son fils. Le mariage des jeunes gens était fixé à la fin d'août, après la fête de Notre-Dame et la récolte des moissons. Tous deux attendaient impatiemment, et André trouvait que les blés ne mûrissaient pas assez vite. Huguette et André se convenaient sous tous les rapports. La fortune des parents était à peu près égale, et au village, c'est toujours le point capital. De plus, si André était le plus beau garçon de l'endroit, Huguette était aussi la plus gracieuse et la plus jolie. Si on eût voulu établir une différence entre eux physiquement, il eût été impossible de la trouver. Mais entre le cœur d'André et celui de la jeune fille, elle était grande. Le cœur de celle-ci, froid, sec et égoïste, ressemblait peu au cœur de l'autre, bon et généreux jusqu'à l'excès. Huguette, il faut bien le dire, n'aimait pas André pour une seule de ses belles qualités. Elle l'aimait surtout parce que sa vanité de jeune fille y trouvait sa satisfaction. Elle l'aimait parce que tout le monde le vantait et le trouvait très bien. Parce que la plupart des jeunes filles du village enviaient son bonheur. Et un peu aussi, peut-être, parce qu'elle était sincèrement aimée. Du reste, elle n'eût pas été femme si son cœur, sollicité par une affection grande et dévouée, était resté complètement froid et insensible. André, confiant, comme tous ceux qui donnent leur vie tout entière à une affection unique, n'avait pas eu de peine à s'illusionner sur la nature du sentiment de sa fiancée. Ainsi que lui, tout le monde s'y trompait. Mais André ne voyait qu'avec les yeux du cœur, et le monde, qui se donne rarement la fatigue d'observer, ne voyait rien. Une seule personne, une jeune fille, avait peut-être lu dans le cœur et la pensée de la trop charmante Huguette, car elle aussi aimait André, et un peu d'envie, un peu de jalousie et beaucoup de regrets lui suggérèrent de sérieuses réflexions. Mais, timide et craintive, la pauvre dédaignée enfouissait son secret au plus profond de son cœur. Elle était peu exigeante. Un seul regard d'André lui suffisait. ce regard qu'elle ne sollicitait jamais, et que cependant elle désirait, comme la fleur désire les rayons du soleil, ce regard faisait revivre en elle les plus douces illusions et peuplait son cerveau de gais murmures et de joyeuses chansons. Si par hasard André avait oublié de lui dire bonjour en passant, elle devenait triste. Toutefois, elle finissait par se consoler en pensant à lui. Mais si le dimanche André ne l'avait point fait danser, son bonheur et ses joies de toute une semaine s'envolaient. Baissant les yeux et rougissante quand le jeune homme lui adressait la parole, elle n'osait le regarder que lorsqu'il s'était éloigné d'elle. Et pourtant deux larmes noyaient ses yeux dès que sa voix ne résonnait plus à son oreille. Alors, le front rêveur, n'entendant et n'écoutant plus rien de ce qui se disait autour d'elle, elle se détournait des groupes joyeux, s'isolait ou s'en allait bien loin pour ne pas voir André offrir en souriant son bras à sa fiancée. La Marguerite des Prés, qu'elle effeuillait souvent, dut lui mentir bien des fois. N'importe, elle aimait superstitieusement la fleur discrète qui lui parlait si bien qu'André y recevait en plaisamment toutes ses confidences de jeune fille. Si par sa beauté et grâce à la fortune de son père, Huguette était la première parmi les jeunes filles du village, comme son fiancé était le premier au rang des jeunes gens, Marie, ainsi se nommait sa rivale, était la seconde. Blonde comme un épi mûr, jeune et fraîche comme une rose qui vient de s'épanouir, la beauté de Huguette seule pouvait l'emporter sur la sienne. Mais ce qui rendait surtout la beauté de l'une supérieure à celle de l'autre, plus accentuée, plus piquante, c'est que Huguette se savait belle et que Marie l'ignorait. Dieu le l'avait dit à celle-ci, et tout le monde le disait à la première. La fleur modeste qui fleurit dans l'herbe se flétrit souvent sans avoir été aperçue. L'églantine suspendue au buisson attire tous les regards. Sourires, louanges, caresses et hommages semblaient appartenir de droit exclusivement à Huguette. Marie restait ignorée et oubliée. Un matin, vers 1 heure, le silence de la nuit fut troublé tout à coup par les cloches de la paroisse sonnant à grande volée. Leurs voix éclatantes et lugubres se répandaient dans l'air, faisaient entendre au loin leurs clameurs immenses et arrachaient au repos les villageois endormis. En un instant, les lits furent abandonnés et les maisons désertes. Les cris « Au feu, au feu, au feu, au feu !» retentirent de toutes parts. L'une des plus riches fermes du village brûlait. Des colonnes de feu s'élançaient des toits effondrés et montaient verticalement vers le ciel, dont l'azur prenait des teintes rougeâtres. Des morceaux de bois enflammés, semblables à des fusées, étaient projetés à une hauteur prodigieuse. On les voyait tracer dans la nuit une ligne de feu avant de tomber ensuite à une grande distance. À la lueur sinistre de l'incendie qui éclairait les maisons, les rues et au loin toute la contrée, on voyait la population épouvantée s'agiter et courir en poussant des cris horribles, auquel se mêlait le craquement des poutres qui se brisaient, le pétillement du feu, le ronflement des flammes, les hurlements des chiens et les mugissements des bêtes à cornes. Dans l'une de ses lettres, Madame de Sévigné a trop spirituellement décrit les costumes de quelques personnages de son temps, assistant à un incendie pour que nous nous hasardions à faire ici des descriptions analogues. Du reste, nos paysans avaient bien autre chose à faire qu'à se préoccuper de la manière plus ou moins grotesque dont ils étaient vêtus. En présence du sinistre, chacun songeait à offrir ses bras à celui des leurs que le malheur venait frapper. André arriva l'un des premiers devant la maison incendiée, où un spectacle émouvant l'attendait. Une femme et une jeune fille, demi-nues, le visage bouleversé, les cheveux épars tombant sur leurs épaules, les yeux hagards, folle de douleur et de terreur, sanglotait et poussait des plaintes affreuses en se tenant étroitement embrassées. Sauvez mon mari! Sauvez mon mari! Criait la femme. La jeune fille reprenait. Mon père va périr! Sauvez mon père! Les yeux des assistants se tournaient du côté de la maison qui était déjà un brasier et personne ne bougeait. Alors la pauvre femme reprenait avec plus de force. Vous le laisserez donc mourir? Vous voulez donc que je sois veuve et que ma fille n'ait plus de père? Et l'enfant, joignant ses mains, ajoutait d'une voix suppliante, « Rendez-moi mon père, ayez pitié de nous !» Parmi tous les hommes présents, les plus courageux répondaient, « Mais il est trop tard, nous nous brûlerions sans pouvoir le sauver !» André questionna rapidement ce qui l'entourait. On lui apprit que le fermier, après avoir transporté sa femme et sa fille loin du danger, avait voulu pénétrer une dernière fois dans sa maison pour y prendre des papiers importants et probablement aussi l'argent et les valeurs qui s'y trouvaient. Plus d'un quart d'heure s'était écoulé et il n'avait pas reparu. Ces renseignements suffisaient à André qui connaissait parfaitement la distribution du logement du fermier. Il n'hésita pas un seul instant. Emporté par son courage et surtout par son cœur, il s'élança dans la fournaise pendant qu'un frémissement de terreur mêlé d'admiration courait parmi les spectateurs. L'attente fut anxieuse, cruelle pour tout le monde. Les cœurs cessaient de battre dans les poitrines, le sang se figeait dans les veines. Un silence effrayant succédait aux cris qui retentissaient un instant auparavant. 2 minutes s'étaient à peine écoulées lorsqu'on vit reparaître le jeune homme portant dans ses bras un corps inanimé. Une immense exclamation de joie l'accueillit. Il s'avança lentement et vint déposer son précieux fardeau aux pieds des deux femmes. « Mort ! » s'écrièrent-elles avec désespoir. « Non, répondit André. Son cœur bat toujours. L'asphyxie n'est pas complète, il est qu'évanoui. » Un instant après, ranimé au contact du grand air, le fermier ouvrit les yeux. Alors la mère et la fille s'emparèrent des mains d'André et en les baisant, les mouillèrent de larmes. Le jeune homme se dégagea doucement. « Maintenant, dit-il, permettez-moi d'aller me faire panser. » Les deux femmes s'aperçurent seulement alors que sur la partie gauche du visage d'André, il y avait une large brûlure. La jeune fille fit entendre un sourd gémissement et s'affaissa sur elle-même. « Marie, ma fille !» s'écria la mère. « Qu'as-tu donc ? Mon Dieu, elle se trouve mal !» Quelques jours après, sur le sol calciné et chaud encore, une vingtaine de maçons travaillaient à la reconstruction de la ferme. Le feu n'avait laissé debout que 2 pans de mur, encore était-il horriblement crevassé. Toutefois, les pertes étaient beaucoup moins importantes qu'elles ne l'eussent été, par exemple, 2 mois plus tard, alors que les récoltes faites, les granges et les greniers sont remplis. D'ailleurs, l'immeuble était assuré et la compagnie se chargeait de tous les frais de la bâtisse. Les bestiaux avaient été heureusement sauvés. Un voisin les reçut dans ses écuries, qu'il offrit spontanément au fermier incendié. Un autre habitant du village mit à sa disposition, pour lui et sa famille, la moitié de son habitation. Le paysan est naturellement égoïste et presque toujours avare, mais il est des infortunes qui le touchent vivement et ont même l'influence de le rendre momentanément généreux. Le malheur dont venaient d'être frappés les parents de Marie, malheur que les paysans redoutent sans cesse et qui peut les atteindre indifféremment, leur communiqua un magnifique élan de fraternité. Dès le lendemain du sinistre, une collecte fut faite dans la commune, et pas un ménage ne manqua d'apporter son offrande. En outre, les principaux propriétaires s'entendirent entre eux et envoyèrent à la fermière du linge et autres objets de première nécessité en assez grande quantité. Enfin, tous les dons réunis, les pertes causées par le feu se trouvèrent presque entièrement réparées. La première sortie de la fermière et de sa fille, lorsqu'elles furent à peu près remises de toutes leurs émotions, fut consacré à une visite chez le père d'André. Après avoir remercié Dieu qui les avait prises en pitié, il était bien naturel qu'elles songeassent à témoigner leur vive gratitude au jeune homme courageux qui leur avait rendu, en risquant sa vie, à l'une son mari et à l'autre son père. André, que la fièvre retenait forcément dans son lit, les accueillit cependant avec gaieté. « Il prend son mal en patience, » dit le père Jubelin aux visiteuses. « La fièvre l'a beaucoup affaibli. Oh, dame, le feu l'a pas épargné. »« Vous devez horriblement souffrir, monsieur André, » dit la fermière. « Oh non, presque plus maintenant, madame, » répondit le jeune homme. « Ne le croyez pas, » répliqua le père. « Il souffre au contraire comme un damné de l'enfer. » Mais mon garçon n'est pas une poule mouillée, un douillet, il aimerait mieux mourir plutôt que de se plaindre. Il a toujours eu l'air souriant que vous lui voyez. Le mal n'a pu lui enlever sa gaieté. Il cause, il rit, je crois même qu'il lui prend parfois des envies de chanter. J'ai rarement vu d'aussi belle humeur. On comprend cela, le contentement de soi-même, le bonheur d'avoir sauvé la vie à un honnête homme. André a un grand cœur, il est bon, il est brave. Prêt à se jeter dans le feu pour quelqu'un, il l'a suffisamment prouvé. Je crains pas de le dire bien haut. André est mon orgueil, oui, oui, je suis fier de mon fils. Et jamais orgueil et fierté n'ont été plus légitimes, monsieur Jubelin. Que voulez-vous, chacun de nous a ses faiblesses. Aimer ses enfants est si naturel. Ah oui, et même les aimer trop, monsieur Jubelin. Oh, ils ne savent jamais tous les chagrins et toutes les joies qu'ils causent à leurs parents. Mais en revanche, ils n'ignorent pas qu'ils peuvent toujours compter sur notre affection. » Et le père Jubelin eut un de ces bons sourires qui n'appartiennent qu'au père. « Et voilà déjà 8 jours que M. André est alité, » reprit la fermière. « Le médecin croit-il pouvoir le guérir vite ?»« Ben, ce sera long, et puis tout le mal n'est pas là, malheureusement. » Que voulez-vous dire, monsieur Jubelin? Demandez-le à André. L'infirmière se tourna vers le jeune homme. Eh bien, le docteur, dit-il en souriant, prétend qu'il me restera sur la figure une marque qui se gardera bien de l'embellir. Marie poussa un gémissement et ne put retenir ses larmes. Monsieur André, reprit l'infirmière, le médecin se trompe peut-être. « Faut espérer que cela ne sera pas. »« Oh, j'espérerai d'autant plus volontiers, » répondit le jeune homme. « Si l'espoir m'était permis, qu'il est peu réjouissant d'être laid, affreux peut-être, et de montrer à tout le monde une joue brûlée. »« Eh, c'est pour nous, oh, monsieur André, » murmura la fermière. Elle prit la main du jeune homme et la serra doucement dans ses siennes. Marie pleurait silencieusement, le visage voilé de ses mains. Comment pourrions-nous rendre tout ce qui se passait en elle à ce moment instant? Ainsi André, pour s'être dévoué, pour lui avoir conservé son père en l'arrachant à une mort épouvantable, André devait rester défiguré. Elle ne croyait pas qu'elle pût avoir assez d'admiration pour lui. Si elle eût osé, elle serait tombée à genoux devant son lit et lui aurait dit « André, vous êtes mon frère. André, je vous admire, je vous aime. » Il lui semblait que sa place à elle était au chevet du blessé, qu'à elle seule appartenait le droit de veiller sur lui, de voir ses souffrances, de l'encourager, de le consoler et de lui donner des soins. André regarda la mère et la fille, puis s'adressant à son père, « Vois, lui dit-il en montrant Marie et sa mère, et dis-moi si j'ai le droit de me plaindre. » Du revers de sa main, le vieillard essuya une larme. Un instant après, lorsqu'André se retrouva seul avec son père, il lui dit « Bien, la visite de Madame Michelin et de sa fille m'a fait plaisir. Ben, te levais bien cela, je les attendais. Avez-vous remarqué comme elles étaient émues ?» Parfaitement, oui, Marie pleurait. C'est une bien charmante jeune fille, mon père. Oh, elle est ma foi aussi jolie que ta fiancée. Le jeune homme sourit. La femme aimée, dit-il, est toujours la plus belle parmi toutes les autres. Oui, du vivant de ta pauvre mère, j'ai toujours pensé ainsi. C'est égal, reprit le jeune homme après un moment de silence. Huguette ne vient pas me voir souvent. Elle est venue avec sa mère le lendemain de l'incendie et depuis, nous n'avons plus revu. Huguette ne peut pas être toujours près de toi. Pour jeune fille, ce serait pas convenable. Attends que tu sois guérie. Allez, bientôt nous ferons la noce. Ce jour-là, le soleil s'était levé dans un ciel superbe. Ses rayons avaient bu rapidement la rosée, et comme c'était un dimanche, jour de fête, les petits pieds des jeunes filles pouvaient courir sur l'herbe verte de la grande pelouse située à l'une des extrémités du village. C'est sur cette place, gazonnée et fleurie de pâquerettes, que dansait habituellement la jeunesse villageoise, sous l'œil des mères de famille. Deux rangées d'ormes séculaires aux vastes ramures, au feuillage épais, épandaient sur la pelouse une ombre rafraîchissante. Les cordes des violons, chantant sous l'archet, envoyèrent quelques-unes de leurs notes joyeuses aux oreilles d'André, qui se promenait seul et songeur dans le jardin de son père. Il releva la tête et sembla aspirer avec délice l'air pur et parfumé que lui apportait l'harmonie d'un quadrille animé. Il écouta pendant quelques instants, regardant les feuilles des arbres frissonner sous les caresses de la brise, et deux pinsons se poursuivent à travers les branches. Mais bientôt un éclair jaillit de ses yeux et rayonna son front. Mes amis m'oublient, se dit-il, mais depuis plus d'un mois, ils s'amusent sans moi. Aujourd'hui, je vais reparaître au milieu d'eux. Je vais les surprendre. Et Huguette, ah, elle ne se doute pas que ce soir-là, je la ferai danser. Il rentra dans sa chambre. En un instant, il fit tomber l'appareil qui, depuis la nuit de l'incendie, recouvrait sa blessure. Son premier mouvement fut de se regarder dans une glace. Une cicatrice rose et légèrement violacée par endroits s'étendait au milieu de la joue gauche jusqu'à l'oreille et à la naissance des cheveux sur le front. L'œil avait été respecté par le feu, et grâce à l'habileté du médecin, les chairs ne s'étaient ni creusées ni plissées. Du reste, il était supposable que les teintes un peu vives de la blessure disparaîtraient avec le temps, à mesure que la peau, mince et transparente, prendrait de la consistance. Ben, c'est pas joli, pensa André en faisant une légère grimace. Puis, après un nouvel examen, après tout, je pourrais être entièrement défiguré, borgne, aveugle même. J'ai donc toutes sortes de bonnes raisons pour me consoler. Du reste, en me regardant mieux, je me trouve un peu moins laid. Il sortit sur ces mots et se dirigea du côté de la pelouse. Nous ne dirons point le nombre des mains qui serrèrent les siennes. Il faudrait pour cela nommer tous ses amis, et ils étaient nombreux. À son arrivée, les violons étaient restés sans voix. Les danseurs avaient déserté le quadrille pour accourir vers lui. Les deux ménétriers eux-mêmes s'étaient élancés du haut de leurs planches, supportés par deux tonneaux, afin d'exprimer au jeune homme tout le plaisir qu'ils avaient de le revoir. André fut extrêmement sensible à toutes ces marques d'amitié. Mais il était impatient de s'approcher de Huguette, qu'il venait d'apercevoir au milieu d'un groupe de jeunes filles. Cependant, les musiciens, s'étant de nouveau perchés sur leur estrade aérienne, on songea à reprendre les danses interrompues. André, le cœur ému, le visage souriant, s'avança enfin vers Huguette. Mais, au lieu du sourire qu'il attendait, ce fut un regard froid qui l'accueillit. Ce regard tomba sur son cœur comme un morceau de glace. Huguette, lui dit-il, je venais vous inviter pour le quadrille. C'est une valse qu'on va danser, répondit Huguette avec un mouvement d'impatience. Oh, ça fait pas, bon, n'importe, je vous invite pour la valse. Mais vous venez trop tard, répondit sèchement la jeune fille. Je suis engagée. Un nuage passa sur le front d'André. Il commençait à comprendre. Et après la valse, reprit-il, oh, j'ai promis pour toute la soirée. Ah, fit André, essayant de sourire. Vous m'attendiez pas, je comprends. Oui, c'est vrai, je ne vous attendais pas. Et je m'aperçois que j'ai eu tort de venir. Mais en effet, monsieur André, vous n'auriez pas dû sortir encore, car vous n'êtes pas guéri. Vous croyez, Huguette ? Mais cela se voit sur votre figure, répliqua la jeune fille, en faisant une petite moue dédaigneuse. Ces paroles cruelles frappèrent André en plein cœur. Il ne pouvait plus se faire aucune illusion. Huguette n'avait pas même pris la peine de lui cacher sa pensée. Il n'avait plus de fiancée. La jeune fille lui tourna le dos brusquement et s'élança au bras de son cavalier qui l'entraîna à la première mesure de la valse. André, immobile, le regard ahuri et comme foudroyé, la suivit des yeux d'un instant. Il la vit pencher sa tête sur l'épaule de son danseur et lui dire tout bas quelques mots. Au mouvement de ses lèvres, il crut deviner qu'elle disait « Ce pauvre André, il ne se doute pas vraiment qu'il est devenu laid à faire peur. » Alors son cœur se serra et cessa de battre à l'instant. Ses yeux, voilés, ne distinguaient plus les objets. Des sons indistincts, confus, résonnèrent à ses oreilles comme des plaintes. Il s'éloigna en chancelant et alla s'asseoir plus loin sur un petit tertre au pied d'un orme. Et là, ne croyant pas avoir à redouter aucun regard indiscret, il laissa tomber sa tête dans ses mains. « Oh, c'est affreux !» murmura-t-il. « Mon bonheur est brisé. Comme elle m'a parlé, quelle froideur, quel dédain ! Elle n'a pu trouver une seule bonne parole à me dire. Mais en revanche, elle a bien su me faire comprendre que j'ai la joue brûlée, que je suis laid, que je suis devenu un objet de répulsion. Ainsi pour elle, qui devait être ma femme, je suis aujourd'hui un malheureux qui lui fait horreur. Oh, j'aime encore mieux cela que de la pitié. Huguette, Huguette, je ne savais pas que vous manquiez de cœur. Elle m'a repoussé, elle me fuit, elle me l'a fait comprendre. Tout est fini entre nous. Je ne dois plus penser à elle. » Ses yeux étaient remplis de larmes. Il se retenait pour ne pas sangloter. « Ce matin, reprit-il, mon père me disait encore, dans 8 jours, je mettrai la faux dans les blés. C'est dans 3 semaines, André, que tu conduiras Huguette devant monsieur le maire et monsieur le curé. Ne nous presserons plus tant de couper nos moissons, mon père. Votre fils ne se marie pas. » Tout à coup, une main se posa doucement sur l'épaule du jeune homme. André se redressa vivement, mais aussitôt son regard s'adoucit et ses traits s'animèrent. Mademoiselle Michelin était près de lui. « Bonjour, Marie !» lui dit-il en lui tendant la main. Marie, rouge comme une cerise mûre, mit sa main mignonne et toute peureuse dans celle d'André. « Monsieur André, dit-elle d'une voix douce et tremblante, pourquoi vous éloignez-vous ainsi de tout le monde? Pourquoi ne dansez-vous pas ?» Il la regarda et répondit, « Oh, je n'ai pas le cœur à la joie, Marie. Alors c'est pour cela que vous fuyez ceux qui s'amusent ?» reprit-elle tristement. « Oh, je ne fuis personne, Marie, répliqua-t-il vivement. Seulement, je me suis aperçu que ma présence n'était pas agréable. Oh, vous ne dites pas cela pour vos amis, monsieur André. Mes amis, s'écria-t-il. Puis-je savoir s'il m'en reste seulement un? Oh, monsieur André, c'est mal de douter ainsi. Vous me donnez tort, Marie. Vous me donnez tort parce que vous ne savez pas que mon cœur souffre et que j'ai le droit de me plaindre. Avez-vous vu, Huguette? « Oui, elle est là, » répondit la jeune fille d'une voix faible. « Elle danse. »« Oui, elle danse. Elle se fait admirer. Elle sourit à chaque compliment qu'on lui adresse. Elle aime tant à entendre dire qu'elle est jolie. Sa coquetterie triomphe. Elle est heureuse. Ah, il sera bien fou celui qui trompait par un de ses regards, un de ses sourires, croire y voir l'image de son cœur. Son cœur, mais l'on l'a pas. Huguette n'a d'amitié pour personne. Elle n'aimera jamais qu'elle-même. Mais vous la jugez mal, monsieur André. Huguette vous aime, vous? Moi, je l'ai cru. Je le croyais encore tout à l'heure, mais elle a eu le courage de m'enlever toute illusion à ce sujet. Mon Dieu, mais que vous a-t-elle fait? Elle m'a blessé cruellement. Huguette, votre fiancée? Est-ce possible? Oh, ma fiancée, dit le jeune homme avec un sourire amer. La tête de la jeune fille se pencha sur sa poitrine et deux larmes roulèrent dans ses yeux. Oh, vous ne pouvez croire cela, Marie, me reprit André, parce que vous êtes bonne. Monsieur André, répondit la jeune fille, Huguette n'est pas méchante. Elle n'a pas eu l'intention de vous faire de la peine, j'en suis sûre. Tout à l'heure, elle vous demandera pardon. Voulez-vous connaître la cause du changement de mademoiselle Huguette ? Reprit André. C'est donc sérieux ? Oui, regardez-moi. Je vous regarde. Comprenez-vous ? Non. Vous ne voyez pas sur ma figure ? À la brûlure ! Cela me rend affreux. Mais non. Comment vous ne me trouvez pas laid, repoussant ? Mais non, monsieur André. Ah ! Eh bien, Marie, cela prouve que Huguette pense autrement que vous. Quoi ? C'est pour cela ? Oui, c'est pour cela, Marie. C'est parce que j'ai joué la joue brûlée que mon mariage avec Huguette, dont on a beaucoup parlé, n'aura pas lieu. Maintenant, vous comprenez que ma place n'est plus au milieu de ceux qui sont joyeux. Je n'ai plus qu'à rester chez mon père pour y cacher ma laideur. Mais ne parlez pas ainsi, monsieur André. Si Huguette est changée à ce point, si elle vous dédaigne, une autre vous aimera comme vous êtes digne de l'être. Une autre, dites-vous. Laquelle ? Je ne sais pas, répondit Marie embarrassée. Mais je n'ai plus cet espoir, reprit André tristement. Je suis trop laid pour qu'une jeune fille consente à devenir ma femme. Monsieur André, vous vous trompez, protesta Marie. Puis aussitôt, elle poussa un petit cri à la vue du père Juvelin et s'enfuit comme un oiseau effarouché pour aller rejoindre sa mère. Ben, est-ce que Marie a peur de moi ? Dit le fermier en arrivant près de son fils. « Oh, je ne le pense pas, » répondit André. « Après l'avoir vu s'envoler à mon approche, j'aurais lieu de le croire. »« En effet, oui. Pourquoi est-elle partie si vite ?» se demanda le jeune homme. Et il marcha, tout rêveur, à côté de son père, cherchant le mot de l'énigme. Les danses continuaient. Il fit le tour du bal, mais sans chercher à revoir Huguette. Plusieurs jours s'écoulèrent. André n'avait pas revu Marie, mais la jeune fille occupait constamment sa pensée, et l'image de Huguette s'effaçait peu à peu de son cœur. Le souvenir de la dédaigneuse Huguette ne connaissait déjà plus aucun regret, tandis que Marie lui apparaissait douce, gracieuse, souriante comme la fée du bonheur. D'un mot, Huguette l'avait meurtrie, déchiré, et d'un regard, Marie l'avait calmé, consolé et guéri. Sa reconnaissance envers la jeune fille s'était changée en une affection profonde. Peut-être ignorait-il encore le véritable état de son cœur, où l'espoir et la joie renaissaient à son insu. Mais lorsqu'il eut bien analysé toutes les paroles de Marie, lorsqu'il se fut bien assuré qu'il n'interprétait pas faussement sa rougeur, son émotion, son embarras et aussi sa fuite précipitée, le voile se déchira et il comprit combien la charmante enfant lui était chère. Les sympathies que nous éprouvons naissent presque toujours de celles dont nous sommes l'objet. Il en est de même de toutes les affections. Nous aimons qui nous aime. André rappela à lui tous ses rêves de bonheur. Ils revinrent en foule. Un matin, au milieu des champs où les épis mûrs se courbaient sous les faucilles, André rencontra Marie. Comme lui, la jeune fille venait de porter le déjeuner des moissonneurs. « Marie, lui dit-il, vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit l'autre jour ? Vos paroles m'ont fait beaucoup de bien. J'étais triste, découragé. Grâce à vous, le ciel aujourd'hui me paraît plus beau, la prairie plus verte, les fleurs plus jolies. André, m'avez-vous dit, une autre femme vous aimera. Eh bien, j'ai cherché autour de moi, et j'ai trouvé. Marie, êtes-vous contente ? Oh oui, si vous êtes heureux, répondit la jeune fille dont le visage pâlit subitement. Celle que j'aime aujourd'hui, Marie, continua André, plus encore que je l'aimais Huguette autrefois, celle qui deviendra ma femme bientôt. Je l'espère, vous la connaissez. Je la connais, répéta Marie avec surprise. Mais n'est-ce pas vous qui m'avez aidé à la trouver ? Marie ne répondit pas. Ses yeux se fixèrent sur le bout de ses pieds, et une vive émotion pressa sa poitrine. Mais vous ne me demandez pas son nom ? Reprit le jeune homme. Je ne veux point le savoir, s'écria-t-elle, je ne veux pas. Un sanglot déchira sa poitrine. André lui prit la main. Mais il faut pourtant que vous le sachiez, dit-il. Elle se nomme Marie Michelin. Bah, s'exclama-t-elle. Marie, je ne connais que vous, qui ne me trouviez pas laid avec ma joue brûlée. Elle se mit à pleurer, mais un sourire radieux éclairait en même temps son visage. Ce jour-là, Marie ne s'amusa point, sous les sentiers, à jeter au vent les pétales de la marguerite. Elle n'avait plus rien à demander à la fleur des prés. Les dernières gerbes étaient rentrées. Quelques jours de repos allaient succéder aux fatigues de la moisson. « Oh ça !» dit en souriant le père Jubelin à son fils. « Je crois que deux ou trois jours de noces seraient pas à dédaigner maintenant. Que penses-tu de mon idée, garçon ?»« Mais je suis de votre avis, mon père. »« À la bonne heure, après la peine, le plaisir. » Alors donc, je m'en vais trouver le père de Huguette et lui dire « Ah non, 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 ce n'est point au père de Huguette qu'il faut faire une visite, » interrompit André, « mais à celui de Marie. » Le père Jubelin ouvrit de grands yeux étonnés. « Oh, ça, garçon, que me chantes-tu là » fit-il. « Père, ne vous en déplaise, c'est Marie Michelin que je veux pour femme. » Le père Jubin se mit à labourer sa barbe avec ses doigts. « Diable, diable, c'est embarrassant, » dit-il. « Nullement, mon père. Vous y êtes allé chercher le père de Huguette, eh bien, rendez-vous chez celui de Marie, et dites à M. Michelin ce que vous avez l'intention de dire à l'autre. » Le père Jubin s'achemina vers la maison de son camarade Michelin, tout en préparant le petit discours qu'il se proposait de débiter afin d'assurer le succès de sa mission. « Eh bien, mon père, » interrogea André à son retour. « Dans 15 jours, nous ferons la noce, » répondit-il. André lui sauta au cou et l'embrassa à l'étouffée. La veille du mariage, Marie rencontra Huguette chez une de leurs amies communes. « C'est donc demain que tu te maries ?» fit Huguette d'un ton ironique. « Oui, c'est demain. Comment as-tu pu te décider à prendre André pour Marie ?» « Parce que je l'aime, » répondit simplement la jeune fille. « Tu l'aimes, mais t'as pas encore vu comme il est devenu laid. Sa joue brûlée l'aura affreux. »« Affreux, à tes yeux peut-être, Huguette, mais pas au mien. Sa joue brûlée, » ajouta-t-elle avec exaltation, « ah, je la trouve belle, moi, car elle me rappelle sans cesse son courage, son dévouement, son noble cœur. » Notre maison en feu, et mon père prêt à périr au milieu des flammes. » Huguette n'osa pas répliquer. Il y a aujourd'hui 12 ans que Marie est la femme d'André Jubelin. Elle aime son mari comme le premier jour. Dieu lui a donné deux enfants beaux comme elle, un garçon et une fille. Le petit garçon fera prochainement sa première communion. Huguette a 30 ans et elle n'est pas encore mariée. On rapporte que le fils de Marie, ayant un jour récité devant elle une fable bien connue de La Fontaine, elle a cru entendre son histoire. On dit encore qu'elle se repent amèrement d'avoir repoussé André. Ce qui porterait à le croire, c'est que la brûlure, qui a inspiré tant d'horreur, a disparu presque. Le bonheur complet, sans nuage, dont jouit Marie, doit être aussi pour quelque chose dans ses regrets.